piano piano, stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene, sarà perché ti amo.
Io canto al ritmo del dolce tuo respiro.
Vincent Macken, la pop italienne, ça vous aimez toujours autant?
Toujours autant. Je suis fan de la pop italienne, c'est vrai.
Est-ce que vous étiez en train de dire à 23h le lundi, on doit être déprimé? Mais plus maintenant.
Bah, j'espère qu'on est moins déprimant que la vie, nous, non?
C'est dur de lutter contre janvier.
Hein. Et ça, c'est Armel Ossio qui vient de parler, parce que les gens savent pas que t'es là. Attends, je sais pas qu'est-ce qu'on doit dire, Armel.
Non, c'est bien, mais justement, vous avez amené des amis, Thibaut Lacroix, Armel Ossio, Sophia Tellier, Vincent Macken. Et je m'étais dit, c'était bien de commencer par Tiamo et de parler d'amour et d'amitié.
Alors, c'est pas Tiamo, attention, là.
C'est
Sarah Porquet-Tiamo.
Ah oui,
Porquet, ça veut dire quoi? En fait, Sophia, toi, t'es d'origine italienne.
Oui, ce sera sans doute parce que je t'aime.
Parce que vous êtes très calé en musique italienne.
Bon, non, mais je suis calé en musique très populaire italienne. Je suis pas calé, je suis pas bien calé en musique pointue italienne, on peut dire. Non. T'en penses quoi? Toi, tu connais très bien la musique italienne.
Et pourquoi la musique populaire italienne?
Parce que ça me rappelle mon enfance, mais que j'ai pas vécu. Ça me rappelle, c'est comme une nostalgie que j'aurais jamais vécue. Tu vois, comme une sorte de vie heureuse que j'aurais jamais eue. Alors j'imagine, je m'imagine enfant dans des bals, mais j'ai jamais vécu ça. Donc c'est une sorte de nostalgie de non-vie.
De moments heureux.
De moments heureux que j'ai pas vécu. Est-ce que c'est clair?
C'est très clair.
Est-ce que ça vous rappelle ça, vous?
Pour suivre une idée avec acharnement, sans pitié. Tout peut crever. La dramaturgie peut ne pas coller. Mais on s'en fout. Ça finira par être juste. Si la folie est assez folle, elle supplante la dramaturgie. Mais il faut être drôlement cinglé.
Il est 23h, il faut se battre contre les tristes. À l'heure où il faut un programme, un plan pour le pays, ça pourrait être le début, le cœur. Un jour, Vincent Macken a écrit un long SMS, c'était en 2013. Il était à Cologne, il devait envoyer un texte au Cahier du cinéma. C'est un long SMS de plusieurs pages, une prière, un appel, pour dire « il manque des poètes, des risques tout », pour demander à quel moment le monde nous appartient, combien de temps il va nous falloir encore pour l'arracher, combien d'années. De toute façon, Vincent Macken n'a pas prévu de se ménager. S'économiser, il ne comprend même pas l'idée. Vincent Macken propose de se battre contre les tristes, de se rappeler que nous sommes capables de grandes choses, de se fatiguer pour rien, juste pour dire que nous avons vécu en ce temps. Il fait partie de cette génération divisée entre les cyniques et les naïfs. Comment alors on invente une troisième voie? Comment on ose dire qu'on y croit encore, mais qu'on n'a plus envie de se faire avoir? Il y a des urgences et surtout il faut mourir, comme disait Montaigne, non de ce que tu es malade, mais de ce que tu es vivant. Donc Vincent Macken parle fort et prend la vie violemment. Un jour, il a failli littéralement mourir. Alors il veut faire entendre sur scène ce que ça donne l'instinct de vie. Et ça, contre le cynisme et le déluge d'ironie qui rencoule n'importe quelle prise de parole désinvolte. Ici, c'est sérieux ce qu'on dit et ce qu'on crie. C'est moins simple de dynamiter des mondes pour en reconstruire. Ce serait plus facile de faire le malin, de tuer l'époque avec des mots morts d'avoir été trop répétés et aller boire des coups en soirée et dire « on est mal barré » et plus tard même pouvoir dire « je l'avais bien dit ». Mais Vincent Macken a trop de sentiments à donner, il veut les réhabiliter. Il dit « on a besoin d'amour et on a besoin d'amitié pour ne pas faire semblant de vivre nos vies ». Alors oui, que ce soit l'idiot ou Hamlet, les personnages sont souvent désespérés. Alors oui, chez Vincent McCain, les châteaux sont gonflables et on n'annonce pas de miracle. Parfois même, il faut se protéger avec boules-quies et bâches en plastique. Mais dans l'idiot, on dit « j'ai 27 ans, je parle et si je ne parle pas, on sera tous morts pour rien ». Vincent McCain n'aime pas les fins, dire au revoir, s'arrêter de parler, capituler. Il préfère la durée, l'endurance. Il conseille souvent de se répéter « nous sommes des lions, nous sommes des lions ». Il oppose au cynisme de la générosité, cette chose aussi archaïque que le désir de se réunir dans une salle pour être au même moment, au même endroit. Vincent McCain pose sur scène ce dont on pourrait mourir si on ne le prend pas au sérieux, un immense besoin d'amour, et dit adieu aux tristes. Vincent McCain, né en octobre 78, qui a mis en scène presque une quinzaine de spectacles, fait l'acteur au cinéma, est dans l'urgence, et là aujourd'hui, par miracle, a tellement de désirs que c'est dur de choisir. Son dernier spectacle, En manque, a été créé le 13 décembre dernier au Théâtre Vidy-Lausanne, où il se rejouera en mars, et il sera les 16 et 17 janvier au Tandem de Douai. Il y aura le cinéaste, son ami Armel Ostiou, il y aura son ami et fidèle comédien Thibault Lacroix, il y aura Sophia Tellier. Il y aura Sophia Tellier qui joue dans En manque et à la musique Dear Criminals, venue de Montréal. Eux aussi sont sur une scène de théâtre en ce moment au Théâtre des Deux Rives à Rouen et ils sortent un album le 20 janvier qui s'appelle Nelly. C'est une vie d'artiste sur France Culture et c'est une vie de lion.
Il manque des poètes à la production et à l'écriture des Risques Tout. Au théâtre, c'est ce qui s'est passé et le théâtre est devenu trop souvent petit et étriqué. D'un côté, les modeux et les cyniques, de l'autre, les sacrifiés. Ils brûlent, sont pillés par les modeux et les cyniques. Les sacrifiés meurent et les cyniques les pillent en parlant de référence. Ça s'appelle la dévoration de l'homme par l'homme. Dans le commerce, on ferait des procès pour plagiat. En art, les poètes sont juste dévorés. C'est l'idiot de Dostoïevski. Alors, il ne reste plus qu'à avoir l'espoir quelque part. Avoir l'espoir dans l'immense écoute du monde. Il va falloir apprendre à se salir, sinon on laissera trop de place aux gens vraiment sales. Il y a urgence à créer. Sinon bientôt il n'y aura plus que ça, une sorte de vulgarisation de tout, sans réel sacrifice, une sorte de longue émission de Thierry Ardisson ou de je ne sais qui, où les putes, les politiciens et les poètes se côtoient. Mais le véritable problème, c'est qu'on en a besoin de ça, de Thierry Ardisson, pour dire à tous, nous avons foi et nous existons. Bref, le cinéma, le théâtre, la danse, tout ça... Tout ça n'est qu'un geste, quelque chose qu'on fait pour ne pas complètement mourir sans se débattre. Parce que l'art, ça n'est que ça. Et on a besoin de camarades, et on a besoin d'amour, et on a besoin d'amitié. Et aussi d'ennemis, mais de véritables ennemis. Parce qu'il faut bien avoir de véritables ennemis pour avoir de véritables amis. C'est cette chose qui est devenue si rare en art. Les gestes, trop souvent, ne veulent juste que ressembler à ce qui marche pour faire partie d'un groupe, comme on s'habille pour se faire reconnaître d'un petit groupe, d'un ensemble social. On attend autre chose, je veux dire, on attend des amoureux, on attend ça, des choses qui nous fassent sentir cons parce qu'elles sont justes et véritables.
Je me souviens que la première répétition avec Gruber, il était très en colère, je ne sais pas, il était assis là.
André Vince.
Et puis il disait, mais vous ne savez pas marcher. Donc pendant 2 heures, tout le monde a marché. Des heures, et il disait toujours ça marche pas, marchez s'il vous plaît, marchez. Et donc on a marché pendant 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures, et pendant une semaine, on n'a fait que marcher.
C'est la voix d'André Vilde qui raconte les répétitions avec Gruber. Il paraît que vous alliez voir des spectacles de Gruber petit avec votre mère, Vincent McCain.
Ouais, c'est vrai. Ouais,
vous avez quel souvenir?
Pas grand chose, mais en fait, pour de vrai, j'ai des réminiscences de moments de spectacle, mais enfin, je comprenais pas bien ce que c'était que le théâtre, hein, quand j'étais enfant. Enfin, j'avais juste l'idée qu'il y avait plein de gens. J'étais plus impressionné, en fait, par les lycéens qui parlaient tout le temps. Dans la salle. C'est vrai. Et des gens qui disaient plus fort aussi, je m'en rappelle.
Ouais. Le public qui participait. Qui tentait de participer.
Ouais, qui tentait d'être vivant, avec Et puis moi aussi, on me disait surtout ne parle pas parce que sinon les acteurs peuvent s'arrêter, ils vont te crier dessus. Donc du coup, j'avais hyper peur de bouger dans la salle. C'était, on m'avait dit ça, quoi. Enfin bon, donc du coup, c'était quand même dans ma tête très difficile, hein, quand même. Hein. Voir un spectacle, vous imaginez la complication que ça devait être.
Et chez vous, vous projetiez des films burlesques?
Pas moi, mes parents me projetaient des films, ouais, en Super 8, ouais. Surtout Laurel et Hardy. Mais d'ailleurs, je préférais beaucoup les voir en vitesse arrière. Ce qui me fascinait, en fait, c'était pas tant le film en normal, c'était plutôt quand mes parents me donnaient le droit, si on avait été sage, de revoir tout en rebobinant. Et ça, j'adorais, quoi. Tout voir en rebobinant, je regardais tout le film, en sens arrière, quoi. Je sais pas comment expliquer. En fait.
Ah ouais.
Et ça, ça me fascinait totalement. Plus que le film, presque. Mais oui, souvent, ouais. Mais ça, c'était l'époque, parce qu'à mon époque, il n'y avait pas des... non, mais c'est vrai. Bah, à ton époque aussi.
On est à notre époque.
C'est pas un truc si fou que ça, non, la Super 8. Enfin, le projecteur Super 8, non. Quand on était enfant, on avait ça, non. On avait des films de Charlie Chaplin, de Laurel Hardy, tous ces trucs-là, quoi.
Vincent McCain, est-ce que le dessin enfant, c'était important? Est-ce que vous y avez pensé à continuer? Est-ce que vous aviez une mère peintre?
Ouais.
Ça tenait quelle place?
Bah, le dessin, non, mais bien sûr, bah, j'ai beaucoup dessiné, mais enfin, comme beaucoup d'enfants, je pense. Ça tenait quelle place? Je pense que, par contre, dans ma façon d'apprendre les choses, on est beaucoup passé par l'image, en fait. Donc, oui, ça avait une forme de place importante. Mais comme j'ai une nature, quand même, à contrarier les gens, ça m'est pas trop passé par la tête de faire ce que faisait ma mère. Tu vois ce que je veux dire? Ça pouvait pas arriver.
Vous dites qu'une des premières images que votre mère vous a montrées, c'est Guernica.
Oh, je sais pas si j'ai dit... c'est
un peu dur,
trucs,
si c'est ça.
Ah, mais mes parents, ils étaient bizarres. J'aurais voulu, des fois, ils m'offraient des cadeaux bizarres pour Noël. Je me rappelle, ils m'avaient offert de la poésie. Quand j'étais en CM2, non, même CM1, j'ai lu après, mais ils m'avaient offert la poésie de Rimbaud au surréaliste. C'est genre, il y avait rien, pas d'image. J'étais dégoûté, quoi. J'étais bon. Et puis une trousse. Avec des. Parce que j'ai été mauvais à l'école. Je te jure, c'est vrai. J'étais vraiment dégoûté, quoi. Quand j'ai ouvert le livre, en plus, j'avais la trousse. Je me suis dit, bon, ils veulent me punir. Et le livre, là, c'était le.
Instrument de torture. Double peine.
Bon. Non, mais en plus, c'était pas une image, quoi. C'était que d'écriture. Et puis des textes théoriques, en plus.
Et ça avait quelle place à cette époque-là, l'époque où vous dessinez, vous recevez Rimbaud en cadeau, et toute la famille de votre mère vient d'Iran. Il y a toute l'histoire qui se passe en Iran, qui est très lointaine de, finalement, votre enfance en France. Mmh. Ça représente quoi pour vous, dans votre tête d'enfant, d'adolescent, ce pan de l'histoire, ce qui se passe là-bas?
Oh bah moi, c'est compliqué, j'aime pas trop en parler. Moi, je vais en parler rapidement, mais non, la vérité, c'est que j'ai eu beaucoup de familles qui étaient contre le gouvernement, et du coup ça avait comme une sorte de valeur d'héroïsme, quoi, comme s'il y avait un endroit où des gens qui mettaient leur vie en jeu pour quelque chose et qui avaient une vie plus grande, ou une sorte d'histoire de vie qui était plus violente et donc plus grande. Maintenant, je pense que c'est une erreur de penser ça, parce que je pense que tout le monde a une vie très grande en soi. Mais enfant, ça valorisait quelque chose de l'ordre du sacrifice, en effet.
Et c'était des choix aussi qui... Enfin, il y avait la vie et la mort en jeu, quoi.
Oui, voilà, c'est
ça. Dans certaines histoires.
Oui, évidemment. Mmh. Mais c'est ça que je veux dire, c'est que ça mettait en relief une forme de confort que moi, je pouvais avoir, ou que les gens qui étaient autour de moi pouvaient avoir. Donc, du coup... ça pouvait un peu amoindrir à mes yeux l'idée de tragédie qu'on pouvait vivre ici, quoi. Donc, mais ce que je pense que c'est une vraie erreur, je pense qu'on vit tous le drame d'être vivant, quoi. C'est...
vous citer des impressions que je crois peuvent donner un peu aux auditeurs l'idée de ce que nous voyons, ou que nous assistons. C'est formidable de voir l'acteur à un certain moment regarder d'une manière tout à fait évidente, sans se cacher du tout, un petit morceau de papier qu'il a à la main, où il regarde quel mot de son texte d'une manière tout à fait naturelle. Et en même temps, tout de suite après, être immédiatement plongé dans son personnage et pleurer directement comme s'il y participait d'une manière directe.
Et il y a même également le rôle du metteur en scène qui vient sur le plateau, qui rajuste une armure, qui rajoute une plume, qui apporte du thé aux gens qui ont soif. Donc on n'oublie jamais qu'on est au théâtre. En même temps, les gens participent entièrement. Et comme vous le disiez, nous avons assisté également à, enfin, les acteurs avant d'entrer sur scène pleuraient dans un coin. Enfin, c'était assez frappant.
Et ça, c'est un objet de recherche du théâtre d'avant-garde, vous comprenez. Finalement, cette recherche désespérée que le théâtre d'Occident fait d'une participation réelle du spectateur, là, est obtenue d'une manière très simple par des esprits qui sont des esprits extrêmement primitifs, dans le bon sens du mot, c'est-à-dire ils ne font aucun effort pour obtenir ce résultat. Et ça, je crois, c'est une leçon pour l'Occident.
C'était pour faire un petit clin d'œil à l'Iran, c'est le tazier, le théâtre rituel qui date du 10e, 11e, 12e siècle. Mais je trouvais ça intéressant parce qu'il parle du rôle du metteur en scène et du metteur en scène qui est là au milieu de tout le monde, qui apporte le thé, qui dit un truc. C'est cette présence un peu folle finalement. Et ça me faisait penser à vous, Vincent McCain.
Je sais pas, en tout cas, je pense qu'il a raison. Enfin, en tout cas, mais je pense que ceci dit, même le théâtre ou même l'opéra, c'est quelque chose de primitif. J'allais voir une sorte d'opéra là à Bruxelles et c'était ignoble, comme parce que ça représentait totalement une forme bourgeoise du jeu et d'interprétation. Et je me disais, c'est aussi de manière archaïque pour les bourgeois de se représenter. Et en fait, ils sont heureux. Enfin, les bourgeois, ça veut rien dire, parce que on est tous bourgeois dedans. J'ai pas le bon mot, c'est pas le bon mot. Mais en tout cas, ça représente une sorte de chose avec des codes qui sont mis en place. Et du coup, ces codes-là, bien sûr, c'est pas les miens, mais c'est peut-être pas, c'est plus ceux de plein de gens maintenant, et c'est d'autres codes. Et du coup, quand je vois ça, je me dis, mais ils sont complètement arriérés. Pour moi, c'est aussi primitif que des choses tribales de tribus en Afrique. Moi, je trouve ça très beau. Moi, le documentaire de Jean Rouch sur les maîtres fous, je sais pas si vous l'avez vu tous ce documentaire, tu sais, c'est complètement contemporain ce qu'ils font. Enfin, ce qu'ils font est très contemporain. On voit les Anglais, la colonisation, etc. Et ça, c'est du théâtre. Ouais. C'est ça le théâtre. Et en fait, on fait que ça tout le temps. Non, on représente ce qu'on vit. Alors moi, j'ai vu un opéra de Strauss et je me disais, c'est complètement fou d'écrire ça. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ça devait intéresser des gens à l'époque, mais c'est quand même fou de prendre autant de temps pour le remettre sur scène avec des gens qui apprennent vraiment les chansons et des gens qui viennent regarder cette chose complètement inintéressante. Donc je me dis, c'est quand même un acte de folie extrême. Enfin, je veux dire, si on filmait le public avec des petites couvertures, avec des gens très riches qui ont payé très cher leur place, avec des gens qui chantent un truc totalement inintéressant, avec une mise en scène ultra inintéressante et des codes de jeu ultra inintéressants, on me dit, c'est de la folie. Avec beaucoup d'argent en plus. Non.
Mais justement, vous parlez de rituels. Oui. Est-ce que, et de cette chose archaïque de se retrouver encore justement dans une salle, de se réunir, qu'il y a encore des gens pour faire ça?
Mais moi je me mets dedans aussi, c'est complètement fou de mettre en scène des spectacles. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du rituel. S'il n'y avait pas cette chose-là, ce besoin de rituel, on ne le ferait pas. Ça ne peut être que du rituel. Enfin, je trouve même mettre en scène un film, tu vois, le temps de montage qu'on prend. Enfin, c'est que exulter quelque chose ou représenter notre vie et dire on est vivant, on est juste vivant, on existe là, ici et maintenant. Ça n'a pas d'autre valeur que ça en fait, mais c'est très grand de faire ça déjà. Enfin, je crois, mais.
Pas encore, Martin. Continue. Trouve le sang. C'est encore une enfant qui pleure. C'est bien, mais tu deviens inhumaine, un sang dépersonnalisé. C'est ça qui fait réagir au reste. Garde le sang en continu. Il devient contenu comme celui d'une pleureuse. Mal payée, elle ne peut pas tout donner tous les jours. Elle doit protéger ses cordes vocales. Elle a un son qu'elle peut faire durer des heures. Continue. C'est ça, continue.
C'était encore la voix de Gruber. Et on parle beaucoup de cris quand on parle de vos spectacles, Vincent McCain. Et vous disiez qu'il fallait parler fort pour se faire entendre et qu'il y avait aussi une urgence à parler. Peut-être vous pouvez raconter, Thibault Lacroix, comment vous travaillez ça? Ou Sophie Atelier, comment l'urgence de dire ou de se faire entendre? Pourquoi le cri, ça arrive? Pourquoi c'est ça qui vient?
Et pas parce que le bon, c'est dans l'excès. Je crois qu'il y a quelque chose de ça, où on ne veut pas déroger à cette règle. Et où, c'est vrai, on a besoin de crier.
Ouais. Sophie Atelier,
Je sais pas pourquoi c'est le... Je sais pas, faudrait demander peut-être un biologiste. Je sais pas pourquoi, quand je me mets en colère, je crie plus fort. Je sais pas. Mais il se trouve que ça se passe. Et là, je travaille pas le fait de crier. Et je travaille pas ma colère non plus. C'est l'urgence du spectacle, l'urgence de ce qu'il y a à dire, de ce que Vincent nous communique. Avant d'entrer sur le plateau, ou même pendant les répétitions, c'est un espace où on réfléchit, voilà, où on réfléchit la colère qu'on a tous dans ce monde et dans cette société, et l'espace des répétitions et du spectacle, enfin de ce spectacle qu'on vient de faire, en tout cas pour moi, c'était l'espace où je réfléchissais cette colère, et du coup c'est ça qui venait. Je suis en colère et le théâtre, le plateau, c'est l'endroit où je peux crier ma colère du coup.
C'est ça le sentiment de départ, c'est la colère, Vincent McCain.
Non, vas-y.
Je sais pas, mais en tout cas, c'est ce que je dis quand j'essaie de diriger, je pense que ce soit dans Romanque ou dans Idiot, c'est que si on pense très fortement quelque chose et qu'on essaie de le dire à un groupe de gens, la pensée, elle se bande. J'ai pas le mot, c'est pas un beau mot, bander, mais elle se visse, quoi. Et du coup, ça visse la parole et ça fait monter une forme de pression et de prise de parole. C'est ce que je crois. Mais je pense pas que, par contre, ça soit hystérique. Que ce soit toi, Thibaut, ou Sophia. D'ailleurs, quand vous jouez, vous êtes assez... Il y a quelque chose de rapide et de pensée qui est très rapide, mais qui est très précise en vous, mais qui est très puissante, qui m'a l'air très puissante quand je vous regarde jouer, je pense...
Oui. Et pourtant, je trouve, quand on travaille avec toi, il faut refuser l'intelligence. C'est des personnages qui sont trop embarqués dans quelque chose pour réfléchir normalement. Donc en fait, c'est aussi là où le cri va permettre de ne plus être intelligent, mais de dire des choses très profondes pour le coup, mais sans intelligence. Et je crois que c'est pas pour rien que t'as monté Idiot.
Non, c'est vrai, ouais. Mais souvent, on parlait de ça, non, pendant aussi en manque, mais même pendant Idiot, que c'était une pièce qui se passait dans une maison qui brûle et pas devant la maison qui brûle. qu'on est dedans.
Et dans Idiot, Thibault Lacroix, c'est quoi... comment vous définiriez cette révolte? Cette perte d'illusion, ce...
Le personnage que je jouais, lui, il a une maladie, il a la phtisie, donc il va mourir, il a 25 ans, il est fou amoureux d'Aglaïa Ivanovna, qui aime l'idiot. Et je pense que Dostoïevski a créé ce personnage pour trouver le contrepoint. On pense que le contrepoint, c'est Rogojine, mais je pense pas, je pense que le contrepoint vraiment de l'idiot, c'est ce pauvre type qui s'appelle Hippolyte et qui bouffe quand même... au moins 400 pages sur les 800 d'Idiot. Hein. On s'interroge, ce personnage arrive, on ne sait pas pourquoi, mais c'est pour dresser un tableau plus amer, je crois, que Voilà, j'aime bien cette phrase là, c'est dans Covadis, un péplum. Il dit, mais qu'est-ce qui coule dans tes sangs, dans tes veines, maudit vieillard, du sang ou de l'eau ou du sang? Et voilà, on a l'impression que l'idiot, il aurait de l'eau. Et je faisais un personnage qui savait qu'il y avait du sang et en plus contaminé. Donc, bien qu'il y ait des bactéries dans l'eau.
Après, je pense que dans, si je peux rectifier, je trouve que dans l'idiot, tous les personnages ont une forme de poison en eux et ils ont leur propre mort en eux. Par exemple, l'idiot, sa volonté de bonté ou de vérité, c'est son poison, son propre poison. Mais comme Hippolyte, son besoin d'amour est son propre poison, tu vois. Mm-hmm. Et je pense que tous ces personnages, ce qui est assez beau dans ce livre, ils ont tous une forme de mort ou de fin en eux-mêmes, quoi. Mais là où t'as raison, c'est que le tragédie d'Hippolyte, c'est une forme de Christ inentendu, comme l'idiot, quoi. Donc c'est là où sa parole n'est pas entendue, en tout cas.
Il y a souvent, vous parlez de mort, il y a souvent cette idée, c'est dans votre texte aussi, le SMS de Cologne, Vincent Macaigne, il faut un geste pour ne pas complètement mourir sans se débattre. On a l'impression que ça revient tout le temps, c'est une espèce de mort qui est là, ou qui pointe, ou qui arrive. Et puis, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas y entrer sans se débattre, en tout cas?
Enfin, ça règne, la mort, parce qu'on va tous mourir, c'est un truc qu'on a en commun. non mais c'est vrai que en tout cas je trouve que de faire de l'art ou de faire du théâtre, et c'est ce que je demande aux acteurs, je trouve que quand les acteurs jouent et que moi ça me dépasse, quand je trouve ça beau, ça me dépasse, il y a quelque chose que j'arrive pas à expliquer. Donc quand les acteurs jouent, que ce soit tous les acteurs, Sophia, Thibault, et c'est ce que je cherche à être comme dépassé par l'acteur, et c'est quelque chose qui dépasse même la mort. C'est-à-dire que c'est comme un accident, comme un instant qui s'inscrit dans l'éternité pour moi. Et là, c'est archaïque, c'est quelque chose qui nous dit on est vivant ici et maintenant, et on est ensemble, et ça a une valeur beaucoup plus grande que la quête d'ascension sociale, la quête de carrière, la quête de notre quête à tous, hein, d'être plus confortable, quoi. Notre quête de confort, en fait. Et dans le jeu de l'acteur, mais que ce soit au cinéma ou au théâtre, d'ailleurs, il y a cette chose qui est un peu indicible quand quelque chose se passe, qui est comme un accident, et que le présent est comme une sorte de bulle qui vaut tout, en fait. Je ne sais pas comment expliquer. Qui vaut comme un monde en entier et une vie en entier. Et c'est ça que j'aime voir. Et quand je l'ai pas, par contre, c'est là où je suis agacé, comme un enfant gâté et qui voudrait revoir tout le temps ça, quoi.
Après la première création de Idiot, vous avez eu un accident, vous?
Oui, j'ai...
Assez grave. vous auriez pu mourir concrètement.
Ouais, mais c'est pas grand-chose, en fait. J'ai eu des ennuis de santé, mais bizarrement, c'est tragique à quel point c'est rien. Enfin, pour moi, j'ai vécu ça comme ça. Ça m'a reposé aussi, parce que comme ça, les gens ont arrêté de m'ennuyer, quoi, quand j'étais à l'hôpital. Et puis, on apportait des repas à heure fixe et tout ça, pas besoin de faire le ménage. Je vois qu'Armand n'est pas d'accord avec moi.
Est-ce que c'est à partir de ça que peut-être vous avez pensé au cinéma? Ou en tout cas, l'envie de laisser des traces, d'enregistrer, de pas perdre quelque chose qui pourrait se perdre si on perd la mémoire, si on perd un accident.
C'est certain que le théâtre ne donne pas cette chose d'enregistrer les gens et les gens qui m'entourent. Et que je suis arrivé au cinéma, en tout cas moi en tant que réalisateur, mais bon, voilà, en voulant filmer les gens qui m'entouraient. Et c'était vraiment plus même ça mon but que de faire une histoire ou de faire du cinéma. C'était d'enregistrer quelque chose. Ouais.
Armel Ostiou.
Ouais, non, mais c'est ça qui est troublant dans le cinéma. Enfin, c'est ce côté un peu aspirateur de vivant, avec du coup le risque aussi de congélation que ça peut avoir. Et c'est vrai que, en l'occurrence, quand on a travaillé ensemble avec Vincent, la capacité de Vincent, c'est la colère. Je sais pas si c'est le bon terme, parce qu'il y a plein de formes de colère, mais en tout cas, l'espèce de dimension un peu colère aimante comme ça que Vincent peut avoir, elle avait cette capacité, enfin moi j'ai trouvé dans les plusieurs films dans lesquels Vincent a pu jouer et puis quand on a bossé ensemble, de résister à la congélation que peut donner la pellicule ou la vidéo, enfin le fait de d'enregistrer.
Que vous parlez de congélation, je crois, Vincent Macaigne, que vous disiez le cinéma, ça a un côté un peu morbide aussi, parce que ça montre quelque chose qui est déjà mort, finalement.
Ouais.
Et vous êtes réconcilié avec ça ?
Je sais pas, c'est très compliqué. Pour être très franc, par exemple, il y a Armel. Les souvenirs que j'ai du film d'Armel sont des souvenirs de vie. C'est pas des souvenirs du film. Quand je vois le film, je vois le film et le souvenir du film. Je pense que je vois pas ce que voient les gens. Donc évidemment, je suis pas complètement réconcilié avec ça, parce que quand les gens me parlent des films où j'ai joué, j'ai l'impression que on parle d'autre chose, que c'est pas ma vie, en tout cas, ou que c'est même pas la vie de Armel ou des gens qui l'ont fait.
Et cette dimension morbide, moi je pense effectivement, mais ça peut être beau aussi.
Oui, c'est beau aussi, c'est pas forcément
triste.
Ça peut
être beau, ça raconte un moment, une époque et des choses, des gens, c'est ça aussi. Enfin.
Mais je suis content que Ramp Thibault soit coupé les cheveux. Là on le voit pas, mais c'est vrai que quand je t'ai vu les cheveux coupés, non mais je rigole pas. Comme tu t'es un peu congelé, en effet c'est un beau mot, dans ton image de ce qui restera de nous, quand je t'ai vu avec les cheveux coupés, ça m'a fait plaisir.
Avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage et l'on oublie la voix, le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps va, tout s'en va, l'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard entre les mots.
Vincent Macken, vous connaissez les paroles par cœur ?
Ah non, quand même pas.
Plus.
Mais je connais pas les paroles par cœur des chansons. Je les écoute.
Avec le temps, c'était dans Idiot.
Ouais.
Ça vous fait toujours pleurer ?
Ah ouais, c'est hallucinant. Cette chanson est hallucinante. Elle est. Mais je disais ça, je crois que Ferré l'a détestée, cette chanson. Quand on parlait de congélation de ce qu'on est. Mais oui, c'est sublime. Ouais. Non, mais j'ai rien à dire. Je ne veux pas parler. Mais tout s'en va.
Avec le temps va. Tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs.
C'est ultra triste. Hein.
Si vous commencez une phrase par avec le temps, qu'est-ce que vous diriez, Vincent Macken ? Avec le temps.
C'est horrible comme question, parce que il y a Ferré qui dit avec le temps tout s'en va, dire un truc plus plus intelligent me paraît compliqué, quoi. Tu dirais quoi, toi ?
Avec le 49 3 temps, on va valser.
Avec le temps. Non, mais en même temps, c'est déprimant cette chanson, parce que c'est pas vrai non plus. Le temps aussi fait que, avec le temps, on apprend qui sont ses amis, qui sont ses ennemis. Non, c'est vrai.
Avec le temps, tout advient.
Voilà. Non, c'est beau, c'est avec le temps, tout advient. Non, c'est vrai. C'est avec le temps que l'histoire se crée. Non ? Personne ne répond.
Non, si, parce qu'en fait, ça m'embarque sur notre vieille discussion où tu penses que le temps est inversé, en fait. Tu sais ? En fait, on va pas en avant, on revient à un temps.
Comme Laurel et Hardy à l'envers.
Ouais, c'est ça. Un peu comme dans Star Wars, finalement, j'aime bien Star Wars parce qu'au début, ça commence par il y a très longtemps. Et en fait, c'est complètement fou parce qu'on croirait que c'est plutôt dans 10 000 ans, quoi. Et en fait, non, c'était il y a très longtemps.
Non, c'est une vraie discussion qu'on a eue. Après, les gens vont me prendre pour un fou, quoi, donc... le truc...
La discussion continue.
Pardon.
Ouais. Ils viennent de Montréal et ils sont en ce moment à Paris. Dear Criminals. Ils aiment participer à des projets aux disciplines différentes, bonnes sodores de films, théâtre et même opéra. Et ils sont jusqu'au 14 janvier dans Les Lettres d'amour mises en scène par David Bobet au Théâtre des Deux Rives à Rouen. Leur album Nelly sortira le 20 janvier et il s'appelle Nelly parce que c'est la bande originale du film du même nom d'Anne Aymon. Il a été écrit à partir de l'histoire de la romancière québécoise Nelly Arcan. Ce sont donc des morceaux qui ont émergé des ambiances sonores du film et c'est aussi un hommage personnel du groupe à l'écrivaine qui s'est suicidée en 2009. Le premier morceau s'appelle Nelly.
On est Dear Criminals, vous écoutez Une vie d'artiste d'Aurélie Charron sur France Culture.
When you leave all is silence, hey, is your silence just a dream? For these words left in absence, carry you still.
Faire du cinéma, parce qu'il faudra bien qu'on se souvienne de ce qui s'est passé là, maintenant. Je parle pas du truc social, mais d'un truc plus profond, de ce qui change, réellement. Parce que c'est vrai, tout change, putain. Parce qu'on s'aime plus pareil, et qu'on nous a répété qu'on était des putains d'enfants gâtés, et que c'est faux, qu'on vit dans 25 mètres carrés à Paris, et qu'on n'est plus si jeune, et qu'on peut pas acheter. Bah que c'est pas rien, ça. Parce qu'on pète les plombs dans notre studio de merde. Et que l'espoir peut s'enfuir. Même si c'est vrai qu'on est sûrement mieux lotés que plein d'autres. Quand on nous a élevés, qu'on nous a élevés pour préserver. Et que parfois ça donne juste envie de gueuler et de casser quelques trucs juste pour la beauté du geste. Pour se dire que tout ça, ça ne restera pas si intact. Croire que ça n'a pas été rien de se rencontrer les uns les autres. En donner la putain de preuve. Et croire au miracle, croire au miracle. Être poussé par l'espoir du miracle et de la grâce, même si jamais on l'atteindra. C'est toujours plus chouette d'espérer, non? Et faire confiance, se rappeler avec force ce truc archaïque. Pourquoi on se réunit dans des salles pour regarder au même moment la même chose? Qu'est-ce qu'on cherche? mordre le système, tout demander et tout vouloir, décliner quand on nous offre un bout de viande, mais vouloir la vache en entier. Le monde est grand, être libre, réfléchir à haute voix, ne pas tourner sa langue cette fois avant de parler, et regretter après avoir parlé, y croire, y croire, y croire, y croire.
C'était la suite du SMS de Cologne, par Thibault Lacroix. Ça va, Vincent McCain, vous aviez envie de le diriger. Vous êtes retenu.
C'est très étrange parce que Thibaut découvre le texte en même temps, comme tu essaies de jouer un personnage ou un truc, alors que c'est pas vraiment. Ça me fait bizarre parce que c'est comme un personnage, mais c'est pas un personnage, c'est plus simple que ça.
C'est les cheveux courts.
L'amitié, ça revient souvent, soit dans ce texte du SMS de Cologne, ou même dans les pièces, dans ce que vous racontez. Et là, avant l'émission, ça vous tenait à cœur qu'il y ait des amis. Vous disiez Armel Oustiou, c'est un réalisateur mais avec qui j'ai travaillé, mais avant tout, c'est mon meilleur ami. Comme s'il fallait réhabiliter aussi les amitiés et qu'à travers ces vrais liens-là, pourront passer des vraies choses qui se disent de l'ordre de la révolte, de...
Oui, en tout cas, l'amitié dans le travail, c'est primordial, mais ça, c'est évident. Mais par contre, je faisais réflexion, par exemple, sur En Manque. J'ai eu beaucoup de problèmes à écrire à un moment donné, parce que je connaissais pas bien les acteurs, enfin, on se connaissait pas bien. Et ça m'a pris un temps pour répondre quelque part aux gens, mais j'ai du mal à concevoir, en fait, le théâtre ou même le cinéma sans penser que c'est un mini-groupe qui a. On essaie d'avoir la même parole et de se comprendre pour pouvoir parler à un autre groupe.
Sophie Ataillé.
J'ai toujours besoin d'aimer vraiment la personne qui me met en scène. Et parfois, c'est plus dur. Mais il faut toujours trouver l'endroit d'elle qu'on aime et fort en plus.
Au-delà de ça, je pense par exemple à une phrase de Sophie Vanisch, l'historienne, qui dit « Il n'y a pas de révolte sans amour ». Et en parlant des révolutions historiques, de la façon dont les choses peuvent se renverser, il n'y a pas de révolution sans amour, sans amitié, sans ces liens-là, dans une société qui est hyper virtuelle maintenant, où on est connecté, pas forcément par ces sentiments-là.
C'est marrant parce qu'En Manque, le sujet, c'est un peu ça en fait, non ?
Un peu, mais oui.
De loin. On ne fait que des choses pour le lien à l'autre, quoi, pour rester vivant. Mais c'est vrai que ce qui est étrange, moi je pense... que ça va à l'encontre de tout le système qui a été mis en place. Et ce qui est un peu étrange, parce que ce système-là a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale par une volonté d'amour et justement de lien à l'autre. Donc en fait, petit à petit, avec les années, on a oublié pourquoi on a mis ces choses en place et c'est devenu des choses institutionnelles, quoi. Alors que l'institution a été créée après cette Seconde Guerre mondiale et ses atrocités, quoi.
Second eye, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. We are young. So let's set the world on fire.
Mais ça, c'est beau, le refrain est beau quand même.
Ouais, quand il arrive.
Le refrain, il est entraînant.
Un peu un hymne.
Oui, ça anime.
Est-ce que c'est un morceau que vous écoutiez quand vous étiez parti au Brésil, Vincent McCain?
Oui, mais j'ai même intitulé j'ai fait un spectacle et j'ai mis le titre du. Enfin, la phrase du refrain comme titre. J'aimais bien cette. J'avais mis dans mon spectacle. Ouais.
Et qu'est-ce que vous avez retrouvé là-bas? Parce que vous disiez qu'il y avait. Il y avait une certaine lassitude en France, en Europe, et que vous avez trouvé quelque chose de cette chose vivante dont vous parliez tout à l'heure en travaillant au Brésil.
Ah ouais, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très vivant au Brésil. Tu connais aussi le Brésil, toi, Armel?
Un peu.
Mais c'est vrai que, en tout cas avec les acteurs, il y a quelque chose, il y a une croyance qui est évidente, qui n'est pas une croyance sociale, de venir parler sur scène, et qui est juste une croyance d'être là et de travailler. Pas de travailler même. Et donc du coup, ça c'est quelque chose que j'ai jamais vu ailleurs. Ouais. Par exemple, le matin, les acteurs sont là, mais c'est pas un truc russe où les gens se... C'est pas russe, quoi. Mais ils sont... Non, ce que je vois, c'est pas laborieux, mais ils sont là dès le matin. Et quand je mettais en scène, ils revenaient, ils le remettaient en scène un peu ensemble, et ils le retravaillaient, mais dès le matin. Et j'arrivais toujours dans cette sorte de travail continu, mais qui est pas un travail laborieux, mais qui était vraiment une sorte d'amour de qu'est-ce qu'on va dire le mieux possible. Et même, c'est quelque chose qui me dépassait de jour en jour, j'étais complètement dépassé par ça. Et après, l'autre chose, c'est qu'il y a une, ils sont dans des endroits de vie où ils ont espoir que leurs enfants, ils font des choses en se disant, mes enfants vont être plus heureux que nous. Tandis que nous, on fait des choses en se disant, nos enfants vont être plus malheureux que nous. Donc ça change tout. Mais par contre, c'est très très violent ce qu'ils vivent, et c'est très très dur de leur vie là-bas. Par exemple, les acteurs, c'est très très dur pour eux, quoi. Donc c'est forcément pas enviable là-dessus. Mais par contre, la foi qu'ils ont, même pas, je parle pas dans le théâtre, mais dans l'avenir, elle est bizarrement enviable, quoi. Hein.
On va écouter un autre morceau en studio des Dear Criminals, du même album qui s'appelle Nelly.
Stay tonight. Let's scatter crumbs of light and curtains of our fights till bones stop cracking. We should take a quiet time, throw our weapons down till blood starts blooming again. If you stay tonight, we'll forget it all. Won't you stay tonight before we fade away? Stay tonight. Tomorrow's days we borrowed. My hope is dying. My love, quiet sorrow, soft and hollow. Your ghost will follow.
It's gonna take away. till it come just the kind of thing. It's gonna take a while, I know it's gonna take a while. It's gonna take a while, I know it's gonna take a while. It's gonna take a while, I know it's gonna take a while. It's gonna take a while, I know it's gonna take a while. It's gonna take a while, I know it's gonna take a while.
Mais ce que je voudrais dire à propos de la montagne magique, et en tant qu'écrivain, c'est pour moi un modèle. Et c'est un modèle auquel je songe constamment. C'est presque une formule magique pour écrire un chef-d'œuvre. Je m'explique. Vous voulez écrire un chef-d'œuvre, eh bien, je vais vous donner la recette. Vous prenez un monde fermé, une bulle, sans contact avec l'extérieur. Et dans cette bulle, vous enfermez une humanité, aussi diverse que possible, aussi complexe que possible. Et ces gens que vous avez enfermés dans ce milieu clos organisent la société à leur idée, d'une façon maniaque, subtile, avec des règles qui sont folles pour nous qui sommes à l'extérieur de la bulle. Eh bien, c'est ça la montagne magique. Vous avez le sanatorium de Davos, qui est dans la montagne, au milieu des glaces et des neiges. Ils organisent leur vie avec des rites. Et puis, il y a le rituel, il y a un jargon. Quand on dit « qu'a dit Mercure », ça veut dire « est-ce que vous avez de la température ?» Parce que Mercure, c'est le thermomètre. Il faut se faire initier si on veut faire partie de la confrérie de la tâche humide. Et c'est toute l'histoire de Hans Castorp.
Finalement, vous l'avez jamais monté, la montagne magique, Vincent McCain. C'était Michel Tournier qui parlait de Hans Castorp.
Bah, peut-être que je la monterai un jour si je réussissais à convaincre un système de me laisser le monter comme je l'entends.
Ah, c'est ça qui bloque.
Oui, à mes yeux. Hein. Mais de toute façon, ce qui bloque pour moi dans le théâtre, c'est que j'ai un espoir archaïque dans le théâtre qui va à l'encontre de l'idée de la programmation théâtrale en ce moment, parce que maintenant on veut des directeurs artistiques. Et du coup, quand on est... Donc, y a des gens qui veulent bien nous laisser travailler, mais c'est forcément une lutte, puisque tout le monde veut faire rentrer les artistes dans un système. Donc, ils veulent être directeurs artistiques, mais comme partout, comme pour le cinéma, comme pour la pub, on veut des directeurs artistiques. On veut des gens qui aient une idée un peu, une ligne, qui soient des DA, quoi.
Et pourquoi ça vous intéresse, la montagne magique, et qu'est-ce qui fait que ça peut coincer ?
Oh, c'est pas le texte qui coince, c'est l'idée de qu'est-ce que c'est que de mettre en scène et d'être devant des gens et qu'est-ce que c'est que mettre en branle un projet quoi qui nous dépasse, c'est ça qui peut bloquer, c'est ça. Mais dans la montagne magique, en effet, il a raison, il y a quelque chose où le monde est réuni et du coup il y a une sorte de matière à re-raconter l'Europe. Et puis c'est fascinant parce que Davos, c'est pas si loin pour enfin, le sanatorium où ça se passe, c'est très proche de l'endroit où ils font le G8. Et c'est quand même drôle, parce que c'est tous les Européens qui parlent sur l'avenir de l'Europe à quelques kilomètres de l'endroit où on parle de l'avenir du monde. Donc il y a quelque chose comme ça de terrifiant en même temps, comme une histoire qui se serait arrêtée, en fait, avec les mêmes zones de pouvoir, mais comme dans Balzac. Quand on dit Balzac, c'est les mêmes rues, les rues où il y a les éditeurs importants, elles sont au même endroit, quoi. Donc ça, c'est terrifiant, parce qu'on se dit, tiens, on en est encore au même niveau de pensée. Après, dans la montagne magique, ce qui est intéressant, c'est aussi l'idée que l'Europe, elle est comme... on en parlait avec Armel aussi, pas de la montagne magique, mais de ce qu'il y a eu en Europe, dans la découverte et de la richesse qu'on a les découvertes scientifiques, tout ce qu'il a pu avoir et qui a enrichi l'Europe. C'était comme trop pour trop d'idées nouvelles, et ça, comme si l'Europe a explosé. Et là, maintenant, au jour d'aujourd'hui, avec Google, avec l'informatique, la génétique, etc., on est comme à un seuil d'un grand avenir, mais on n'a pas les... On est devant un grand nuage de fumée là-dessus.
Une grosse gueule de bois.
Oui, enfin, on ne sait pas ce qu'on va devenir, mais je parle philosophiquement. On ne sait pas ce que va être notre être, ou ce que nos enfants vont devenir, quoi. Comme être. Pas dans leur carrière, mais dans leur façon de voir le monde ou de vivre. Donc on ne sait pas à quoi on va donner naissance. Et ça, c'est terrifiant. En même temps, c'est sublime aussi, mais c'est ce qui se passe dans la montagne magique, finalement. Et finalement, Hans Castorp, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il se sent en sécurité dans ce monde reproduit. Donc, dans la reproduction d'un système, on peut s'endormir aussi.
Et est-ce que dans En Manque, c'est aussi l'effondrement d'un monde, ou est-ce qu'il y a les prémices d'un nouveau ?
Sophia, toi, tu penses quoi ?
Est-ce qu'il y a l'effondrement d'un monde et les prémices d'un nouveau ? Il y a l'effondrement d'un monde et les prémices d'un nouveau, et l'effondrement du nouveau monde dont il y avait les prémices aussi.
Oui, c'est vrai, oui. C'est en révolution, c'est ça la révolution, en fait. La révolution, c'est pas...
Oui, c'est faire, ouais, c'est ça.
C'est une révolution. Oui. Tout est fait pour être...
Circonvolution.
Voilà. Pour mourir et renaître.
Une des joliesses d'En Manque, c'est que... On dit ça, une
joliesse? Oui, c'est beau comme mot.
C'est que le monde qui va se faire détruire par la révolution fait partie de la... Enfin, admet, a même envie de se faire détruire pour qu'il puisse y avoir un nouveau monde. Et ça, c'est pas un cas qu'on sent dans le monde qu'on essaie de détruire aujourd'hui. Enfin, qui est institué, quoi, l'institution. Alors que là, l'institution d'En Manque, elle dit « Bon, ben, détruisez-moi parce que j'ai raté et essayez de faire quelque chose d'autre. »
Et ça, c'est présent aussi dans la fin du texte. Je reviens toujours à ce SMS de Cologne parce que c'est un peu un texte matrice comme ça, et je crois que ça finit par l'idée de « et tout refaire, et tout recommencer, que tout... » Est-ce qu'on peut lire d'ailleurs la fin du texte, Vincent McCain ?
Nous avons besoin de démesures, d'actes de vie démesurés. Nous avons besoin d'amour. Nous avons besoin du grand public. Nous avons besoin d'être fiers de nous. Nous avons besoin de camarades et, encore une fois, accepter de se salir. La saleté, ça se lave, mais la misanthropie, pas tant que ça, et c'est moche. Accepter son angoisse, accepter de se dégoûter, accepter d'être une ordure, accepter d'être cet être faible, mais se battre toujours pour être entendu. Ne pas se dire que plus tard nous ferons ce que nous voulons vraiment, le faire tout de suite. La jeunesse est fragile. Disparaître, parce qu'il faut bien être appelé au monde pour le raconter. Disparaître dans le monde. Aimer les pires villes, aimer les nouvelles Sodome, préférer les tumultes, vouloir toujours se refaire. PS, ces petites phrases sont des prières que je m'inflige, pas des conseils, et surtout pas des conseils.
Et c'est la flamme qui brûle, la flamme du théâtre, le sacré des lieux, l'extase, il a mis le mot, hein, les, Dieu prie, tu es une prêtresse de quelque chose. D'abord, après, il y a le personnage. M'a dit, c'est le feu du théâtre qui te brûle.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente.
On sera parti d'un nouveau programme, Se battre contre les tristes. Et il continue comme ça, dans les mots de Vincent McCain. Ça dit, et même dire qu'on continuera à être joyeux et naïf. Et tout cela malgré la gueule en sang, malgré les coups, parce que le plus important, ça aura été ça. Dire ces trucs qu'on se dit tout bas. Dire que nous avions été vivants et que nous avions existé. Il faut se battre pour que le souvenir de notre époque ne soit pas ça, ce truc-là que nous sentons tous. Ce truc-là si triste, ce truc si cynique, ce truc si dépourvu de lyrisme, ce truc sans espoir et rempli de renoncement, ce truc-là. Alors donnons-nous un peu plus de crédit, quitte à nous décevoir les uns les autres. La nouvelle création En Manque de Vincent McCain, c'est au Tandem de Douai les 16 et 17 janvier. Les Montréalais de Dear Criminals seront jusqu'au 14 janvier dans la pièce de David Bobet au théâtre à Rouen. Ils seront en concert les 17 et 18 janvier à Rouen et le 23 janvier au Supersonic à Paris. Avant la nuit, je dis merci à Inès De Bruyne, à Lucie Spindler, à Delphine Lemaire pour la réalisation. Et merci à la technique, à Jason Taous et Philippe Thibault. Ça va, vous dormez la nuit, Vincent McCain, maintenant?
Moyen. En ce moment, mal, si vous voulez savoir. Ah.
Vous écoutez France Culture, il est minuit, c'est déjà demain. Nous sommes des lions, comme dit Vincent McCain, alors ne pas dormir ou alors dormir pour reprendre des forces. C'est l'heure des nuits.
Col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare.